Marie Perrolfant.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix et vous êtes nombreux à réagir à l'investiture historique hier en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, 5e président de la RDC, première alternance politique pacifique de l'histoire du pays. Parmi les nombreuses réactions que nous avons reçues au standard, nous avons sélectionné ce matin Henri, Abel et d'autres auditeurs, si on a le temps, peut-être Jean-Pierre également. Henri, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous disiez au standard avoir été très ému hier en suivant cette investiture.
Bien entendu Juan, très ému de voir ce qui se passait hier à la télé, l'alternance démocratique que nous avons tant attendue, pour laquelle beaucoup d'amis sont morts, des parents également. Et donc, ce que nous avions vu hier à la télé, et pour ceux qui étaient sur place au Palais de la Nation, c'était véritablement, une scène solennellement objective pour le Congo. Et donc, je crois que le président Joseph Kabila, qui s'en va avec tous les éloges qu'on lui fait, a compris que toute la lutte que le Congolais menait, c'était bien entendu pour le pousser à leur offrir cette image que nous avons vue hier, côte à côte avec un ancien opposant qui aujourd'hui va lui succéder, et c'était que du bonheur. Oui. Vraiment, c'était une joie immense.
Et Félix Tshisekedi qui a salué la détermination du président sortant en faveur de l'alternance démocratique et pacifique, a-t-il dit. Que retenez-vous du discours de Félix Tshisekedi?
Moi, ce que je retiens du discours du président Félix Tshisekedi, c'est d'abord l'aspect rassembleur que dégage son discours et aussi l'état des droits, parce que n'oubliez pas qu'il est issu de Tshisekedi qui avait aussi sacrifié toute sa vie pour que, évidemment, le Congo parvienne à cette alternance. Et donc, ce discours rassembleur, c'est une très bonne chose. Et nous avons entendu, il a tendu la main au président Fayulu. Je me rappelle, le 19 septembre 2016, quand on a fait la marche pour demander l'organisation du vrai dialogue, donc on était dans la rue, moi je me rappelle, je tenais le président Tshisekedi avec le secrétaire général Kabound, et plus loin encore avec le président Fayulu, qui était à terre à la tête, et je me suis encore rappelé du dialogue de la CENCO, où on était là du matin jusqu'au soir.
Et quand vous dites, Henri, excusez-moi, quand vous dites on était là, je me souviens, j'y étais, vous êtes de la classe politique, qui êtes-vous Henri?
S'il vous plaît, vous avez dit ?
J'ai dit, parce que j'ai l'impression que vous êtes aux premières loges de tous ces événements, puisque vous dites, je me souviens d'avoir donné la main à Félix Tshisekedi, vous n'êtes pas un simple militant, vous faites partie de son entourage ?
Non, je ne suis pas de son entourage, mais je suis un jeune leader politique dans notre pays.
D'accord, très bien, non mais c'est toujours bien de savoir avec qui on discute et on débat sur l'antenne de RFI. Abel, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lubumbashi. Est-ce que vous partagiez l'émotion évoquée à l'instant par Henri lorsqu'il a suivi hier cette investiture du président Tshisekedi?
Oui, certainement, nous partageons cette émotion dans la mesure où la date du 24 janvier 2019 restera pour toujours gravée dans nos cœurs comme étant un jour historique pour notre vie nationale et pour toujours, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu pour la toute première fois passation pacifique des pouvoirs entre un président sortant en vie et un président entrant, surtout issu de l'opposition multigénérationnelle. Mmh. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent au nouveau président dans la mesure où il va rendre effective notre vision à tous, l'émergence de notre pays, une rivière de délices au cœur de l'Afrique.
Oui, Abel, en même temps, il n'y a pas eu de discours de rupture hier.
Non, ça va venir avec le temps, petit à petit, l'oiseau faisant son nid, le président Félix aura toutes les manœuvres possibles pour changer les visages de notre nation. Mais pour l'heure, c'est d'abord la réconciliation de 70 millions de Congolaises et de Congolais de toute religion, de toute tribu qui importe le plus. Oui. Son discours a été conciliant, il a tendu la main aux uns et aux autres. Oui. L'objectif principal étant de planter des jalons pour le développement intégral de notre vie nationale.
Abel, vous insistez sur ce point important, il a effectivement tendu la main à ses deux adversaires malheureux à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary et Martin Fayoulou. Vous pensez que Martin Fayoulou doit rejoindre le gouvernement, lui qui conteste la présidentielle, lui qui est convaincu d'avoir gagné cette élection et donc qu'on lui a volé le scrutin présidentiel?
Nous savons que derrière lui, il y a des poids lourds de l'opposition congolaise. Il a tous les temps possibles pour les consulter. Mais le souhait de nous tous, c'est qu'il puisse prendre part à notre bateau. Donc, on a besoin de lui, on a besoin de son intelligence, on a besoin de son expertise pour le développement de notre pays. C'est notre prière à tous qu'il puisse mettre un peu d'eau dans son vin pour allier les trains de développement de notre pays.
Oui, en tout cas, hier soir, dans notre édition spéciale, l'un des porte-parole de Martin Fayoulou, chérubin Okende, disait qu'une décision serait prise dans les deux prochains jours. Donc on verra si Martin Fayoulou accepte la main tendue du président Tshisekedi. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour, monsieur Wan.
Vous êtes à Kinshasa. Que retenez-vous de l'investiture hier de Félix Tshisekedi?
Bon, pas grand-chose. Félix n'a pas été élu. C'est un président qui a été mal élu. Tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a été élu. Il n'y a qu'à suivre l'Église catholique qui ne s'est pas présentée. Regardez, il y a eu peu d'engouement au niveau de la ville de Kinshasa. Même les chefs d'État africains ne sont pas venus. Ceux de pays voisins ne sont pas venus. C'est contesté au niveau international. Évidemment, c'est une élection, une installation, une prestation qui est à la base fondatrice d'une élection vraiment qui est une escroquerie sur le plan politique.
Attendez.
Et même sur le plan des attentes de la population.
Quand vous parlez d'escroquerie, c'est votre droit, Jean-Pierre. Effectivement, peu de chefs d'État avaient fait le déplacement hier à Kinshasa. Un seul chef d'État, le président kényan Uhuru Kenyatta. On nous annonçait 17 chefs d'État et de gouvernement. Finalement, il n'y en a eu qu'un. Il y avait quand même des différents pays représentés par le biais de ministres ou d'ambassadeurs. En même temps, la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, toutes ces instances se sont dites prêtes à travailler avec le nouveau président, le nouveau gouvernement.
Oui, mais travailler, ça c'est une sorte de réel politique. Tout le monde sait que c'est Fayoulou qui a gagné avec plus de 63%, l'autre n'a eu que 19%. Mais regardez le pouvoir que Félix a actuellement. Kabila, tout en faisant semblant de parti, garde tous les rouages du pouvoir. Il suffit pas d'être seulement comme une sorte de roi fainéant à la présidence, mais il faut surveiller et contrôler tous les leviers du pouvoir. Kabila contrôle l'Assemblée nationale, il contrôle les Sénats, il contrôle les assemblées provinciales, il contrôle les gouverneurs,
oui,
il
donc,
contrôle
la Banque centrale. Finalement, vous vous interrogez sur la marge de manœuvre du nouveau président Félix Tshisekedi et sur son réel pouvoir. On aura l'occasion évidemment de prolonger le débat la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir appelés, Jean-Pierre, Abel, Henri, et vous êtes, je sais, des dizaines et des dizaines encore à souhaiter prendre la parole, mais on y reviendra, c'est promis. Je voudrais qu'on s'intéresse à la Centrafrique puisque vous avez été plusieurs à nous appeler, à nous contacter sur WhatsApp pour réagir au début du dialogue national. C'était hier à Khartoum, au Soudan. Le gouvernement, les 14 groupes armés autour d'une même table pour essayer d'obtenir un accord de paix. Bonjour Séraphin.
Bonjour Monsieur Johan.
Alors vous n'êtes pas du tout optimiste.
Oui, je ne suis pas optimiste, j'attends rien des accords de Khartoum, d'autant plus que ces groupes armés ont déjà, avec le gouvernement, bien plusieurs accords. Aujourd'hui, ce qu'on attend de cette négociation de Khartoum, c'est que si ce sera accentué sur le DDR, c'est-à-dire le désarmement de tous les groupes armés, le rapatriement de tous les mercenaires étrangers qui sévissent dans notre pays depuis plus de 6 ans.
Oui, ça c'est votre attente. Mais en même temps, vous savez bien que les groupes armés, eux, ont des revendications. Et l'une d'entre elles, c'est l'amnistie.
Oui, l'amnistie, je dirais tout ça qu'on est toujours rattrapé par son passé. Je suis mal placé pour dire oui ou non, je suis pour l'amnistie ou contre. Moi, ce que je veux pour mon pays, c'est que la République centrafricaine retrouve la paix. La guerre a trop duré, que les négociations de Khartoum soient une base fondamentale et la dernière, l'espoir des Centrafricains pour que le pays soit réunifié. Alors,
oui.
Le
problème. Donc ça veut dire que la paix peut passer par l'amnistie, Séraphin.
Je comprends que la paix peut passer par l'amnistie comme la paix n'est pas toutefois passée par l'amnistie. Parce qu'il y a des victimes, il y a des choses qui se sont passées. Bon, au nom de la réconciliation nationale et de la réunification du pays, oui, l'amnistie peut être une solution, mais il y a eu trop de dégâts. Je suis vraiment un peu optimiste sur ce point d'amnistie qui n'est pas le point de vue partagé par la plupart des Centrafricains.
Ah, c'est sûr que la plupart des Centrafricains ne veulent pas entendre parler d'amnistie. En tout cas, c'est la revendication principale des groupes armés qui contrôlent 80% du territoire. Des groupes armés qui sont donc en position de force aujourd'hui face au gouvernement. Cyril, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour.
Alors, ça va très bien. Qu'attendez-vous, Cyril, de ce dialogue national entamé hier à Khartoum, au Soudan?
Honnêtement, moi, ce que j'attends de ces assises, c'est la signature d'un accord de paix. Mais au-delà d'un accord de paix, il est important de mettre en place un mécanisme de sanction, parce que le plus souvent, les gens signent les accords et lorsqu'ils rentrent chez eux à Bangui, ils ont de la peine à appliquer les termes des accords.
Oui. Faut rappeler que depuis le début de la guerre, depuis le début de la crise, il y a donc 5 ans, il y a déjà eu 7 accords de paix signés entre le gouvernement et les groupes armés.
Tout à fait, effectivement, Juan. Donc, on voit que la difficulté qui est là, c'est l'application et la mise en œuvre de ces accords. Et puisque les gens n'ont pas un mécanisme, ne sont pas soumis à une contrainte pouvant les empêcher de ne pas observer les termes des accords, et revient toujours sur le même dans la violence. Donc moi je pense qu'il est important en ce moment de dire clairement qu'est-ce qui pourrait arriver si les parties prenantes n'arrivaient pas à respecter leur engagement. Alors moi je pense concrètement à ce que qu'on puisse mettre automatiquement en application les mandats d'arrêt contre les individus
bien
qui
sûr.
Ont
j'entends Cyril Cyril sang. Mais qui va les interpeller, qui va les arrêter, ces chefs de guerre qui ont du sang sur les mains?
Mais dans la condition où l'État centrafricain est sous embargo, il est évident que la communauté internationale, à travers la MINUSCA, puisse montrer ses muscles en arrêtant sans condition les personnes qui commettent des crimes et qui ne respecteraient pas les accords qui vont signer à Khartoum, parce que c'est ça le vrai problème. Et si les accords, ils ne les respectent pas, et ils détiennent le pays entre leurs mains, ils ont les armes, et ils font ce qu'ils veulent. Donc il faut que la communauté internationale adopte une position beaucoup plus robuste pour les contraindre à respecter les accords.
Ils ont les armes, vous avez raison de le dire, vous avez raison de rappeler que votre pays est sous embargo concernant les armes. La Russie a pu malgré tout obtenir un feu vert des Nations Unies pour livrer des armes à la Centrafrique, mais voilà, l'armée centrafricaine est démunie aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir sur ce dialogue qui se déroule donc à Khartoum. Dialogue de paix, l'année 2019 sera-t-elle l'année de la paix en Centrafrique? On en parlera la semaine prochaine, j'en prends l'engagement. Je voudrais qu'on revienne sur l'élection présidentielle au Sénégal, ce sera dans tout juste un mois. Là aussi, plusieurs auditeurs souhaitent revenir sur cette décision du Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Khalifa Sall, de Karim Ouad, deux figures de l'opposition qui font finalement les frais de leur déboire judiciaire. Bonjour Biran.
Bonjour Juan.
Vous n'êtes pas surpris par la décision du Conseil constitutionnel?
Absolument, je pense qu'il n'y a rien de surprenant à cela, parce que nous nous attendions à cela, car aujourd'hui nous assistons à une tentative d'élimination de tout adversaire politique sérieux face à Macky Sall. Le président Macky Sall tient coûte que coûte à avoir un deuxième mandat en foulant au pied tous les principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit. C'est dans ce sens que je lance un appel à M. Karim Ouad et à M. Khalifa Sall. de pouvoir donner des instructions fermes à leurs militants, de pouvoir voter à un leader, pour un leader crédible.
Oui, donc vous attendez que ces deux figures de l'opposition se prononcent et soutiennent officiellement un des quatre autres candidats qui seront face au président sortant Macky Sall. Donc, si j'entends bien, vous faites partie de ceux qui sont convaincus que derrière cette décision de justice, il y a le pouvoir qui tire les ficelles, tout ça pour favoriser la réélection de Macky Sall. En même temps, il y a bien des preuves que l'ancien maire de Dakar a utilisé des fonds publics, de l'argent public de façon illégale. Il en est de même pour le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, donc Karim Wade. Donc voilà, ces deux personnalités n'ont pas été tout à fait réglo, si vous me permettez l'expression.
Oui, au-delà du fond du dossier, je pense qu'il y a la question de la forme. Par rapport à M. Khalifa Sall, le procès n'est pas complètement terminé, d'autant plus qu'il y a un rabat d'arrêt qui est en cours.
Tout à fait.
Et tous les spécialistes de ce pays ont convenu que le rabat d'arrêt est suspensif. Donc, quelle est cette précipitation aujourd'hui suspecte de vouloir aller coûte que coûte à une décision définitive pour condamner M. Khalifa Sall. Mmh. Et pour cela, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les leaders de l'opposition se rangent vers un candidat comme Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui une véritable alternative à Macky Sall.
Ouais. Ousmane Sonko, qui revient souvent, qui est souvent revenu dans vos propos, les propos des auditeurs, sur la page Facebook de l'émission cette semaine. Certains l'ont même comparé à Emmanuel Macron. Il y a 2 ans, il incarnait le changement, la jeunesse, la nouvelle génération. On verra ça, évidemment, là aussi, la campagne électorale s'annonce passionnante au Sénégal. Terminons, il nous reste 4 minutes et vous êtes nombreux et on aura, c'est promis, l'occasion de prolonger le débat lundi matin. On va revenir sur cette polémique après les propos du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, qui accuse la France d'appauvrir l'Afrique en continuant à utiliser le franc CFA. Il accuse la France de poursuivre sa politique colonisatrice. Allez, parmi les auditeurs, qui avons-nous? Achille peut-être? Achille, bonjour Achille.
Bonjour Juan.
Vous comprenez les propos du vice-président du Conseil italien?
Pour moi, ce qu'a dit le vice-président du Conseil italien est un fait avéré, connu de tout le monde, que ce soit en politique ou en économie, c'est quelque chose qui est réel. Je pensais avoir une réponse de la France, mais la France a fait comme d'habitude de la politique. C'était l'occasion pour la France de démontrer par A plus B qu'elle n'abuse pas des États africains et que les États africains s'enrichissent dans le franc CFA. Mmh. Mais on n'a rien vu.
Mais pourquoi, excusez-moi Achille, pourquoi êtes-vous convaincu que le franc CFA contribue au sous-développement du continent africain, en tout cas des pays de la zone franc?
Juan, est-ce que vous pouvez imaginer que la France donne la moitié de ses devises à un État tiers et que vous continuerez d'avoir le niveau de vie actuel?
C'est-à-dire, je ne comprends pas bien, expliquez-vous.
Si la France donne la moitié de ses avoirs en devises pour garantir la stabilité de l'euro, est-ce que vous êtes sûr que vous, Juan, vous aurez le niveau de vie actuel?
C'est-à-dire que vous rejoignez le chef du mouvement 5 étoiles lorsqu'il dit sans le franc CFA, sans ces pays africains, la France ne serait pas la 5e puissance économique du monde, elle serait à la 15e, en 15e position.
Je le rejoins parfaitement. Je pense que la France avait là l'occasion de nous dire, de montrer par A plus B en organisant un panel ou bien une déclaration pour dire voici ce que la France perd, voici ce que la France gagne, et tout le monde serait convaincu. Oui. Mais le fait que la France n'a pas répondu montre que que Luigi Di Maio a parfaitement raison.
Bon, bah écoutez, c'est votre point de vue, il me reste à peine une minute, donc on va arrêter là ce débat qui sera prolongé lundi avec Chantal Leroux. Le franc CFA est-il un frein au développement de la zone France? Cette monnaie est-elle finalement un prolongement de la colonisation, comme l'affirment les détracteurs du franc CFA et notamment Luigi Di Maio? Appelez-nous 33 9 693 693 70 et Chantal Leroux sera ravie de dialoguer avec vous lundi matin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine à l'écoute de RFI.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec appel sur l'actualité.
Dans 10 minutes, priorité.